Bonjour à tous, bienvenue sur RD Radio Dauphiné. Nous accueillons aujourd'hui Suzy Beauquian, éducatrice spécialisée qui travaille avec l'association Opelia Tempo et qui intervient régulièrement dans le lycée dans le cadre de la prévention contre les addictions.
Pour commencer l'interview avec vous, nous allons vous dire la définition qu'on a trouvée sur internet de dépendance qui pour nous n'est pas correcte. Donc si vous pouvez apporter des précisions avec votre expérience. Alors la définition c'est dépendance très forte liée à une substance nocive entraînant une conduite compulsive.
Alors une addiction pour moi effectivement c'est l'échec de la satisfaction. Votre définition elle est très bien aussi. À part qu'effectivement moi je fais une différence entre la dépendance et l'addiction. Où l'addiction je considère que c'est une maladie qu'il va falloir traiter et accompagner avec des médecins, des personnes comme moi, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, et puis tout un versant psychologique aussi avec des psychologues, etc. Alors que la dépendance, je pense qu'on est tous dépendants à certaines choses. Moi, je suis dépendante à mon téléphone pour travailler, à ma voiture, je suis dépendante affectivement à ma famille, à mes amis. Je pense qu'on peut choisir aussi ces dépendances. Je choisis d'être dépendant effectivement de mon petit copain, de ma petite copine, etc. Et qu'on est tous dépendants de choses plus ou moins matérielles ou d'émotions, en tout cas avec les uns et les autres. Voilà.
Quels sont les signes d'une dépendance chez les ados ?
Alors, c'est une question très pointilleuse parce que je pense qu'il n'y a pas d'addiction chez les adolescents. On parle très très peu d'addiction chez les adolescents parce qu'on considère que les consommations de stup, par exemple, elles vont faire partie d'un parcours, mais elles ne vont pas forcément rester. C'est ce qu'on remarque, par exemple, chez les jeunes papas, chez des jeunes hommes qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo. On va se rendre compte qu'en fait, arrivés à l'âge adulte ou quand ils deviennent papas, en fait, ils vont se mettre à arrêter complètement de jouer aux jeux vidéo, à part le dimanche après-midi pendant la sieste. Donc, ce n'était pas forcément une addiction, mais une dépendance au jeu. Chez les jeunes, on peut le remarquer par la vie scolaire, par exemple, par le fait qu'il y a des jeunes qui sont très souvent en retard, qui sont très souvent absents, ou qui vont beaucoup dormir en cours, et qui vont un peu rêvasser, qui vont avoir des chutes au niveau des notes. Mais vous voyez bien que, du coup, ça peut être en rapport avec une dépendance d'un produit ou par exemple d'un jeu vidéo, mais ça pourrait aussi l'être d'un mal-être ou d'un harcèlement scolaire, etc. C'est pas des symptômes qui sont tout de suite reconnaissables pour une consommation, quoi.
Selon vous, quelles sont les principales dépendances chez les jeunes que vous rencontrez ?
Je pense que c'est très difficile de faire une moyenne. Après, moi je vois de plus en plus de jeunes qui sont accros à leurs jeux vidéo et à leurs écrans. Qui vont se cacher derrière, ce qui est mieux dans un certain cas de figure parce que du coup, il y aura moins de danger physique, évidemment, que quelqu'un qui va boire de l'alcool tous les jours ou quelqu'un qui va fumer du cannabis tous les jours. Bah, forcément, le fait d'être devant son écran, alors certes, il va y avoir des problèmes de dos, peut-être des problèmes de vision, des problèmes de sommeil, etc., mais ça reste quand même mieux pour la santé. Beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau des écrans aujourd'hui. Et sinon, principalement, je dirais que c'est cannabis et alcool pour les jeunes. Et peut-être avec plus de cannabis, parce que comme il y a le versant illégal avec le cannabis, c'est plus facile de me les orienter. Ça se voit plus que l'alcool. En France, on a une culture très forte au niveau de l'alcool. Elle fait même partie de la religion. Donc le vin rouge, qui est le sang du Christ, etc. En France, les premiers verres d'alcool, ou en tout cas les premières fois que les jeunes goûtent à de l'alcool, c'est souvent dans la famille, très tôt, pendant des jours de fête. Aux États-Unis, c'est 21 ans, hein, la première fois qu'on est censé toucher un verre d'alcool. Donc vous vous rendez compte que culturellement, en France, c'est quand même très décalé. Et du coup, on m'envoie peu, finalement, les jeunes pour alcool. Parce que aussi, les jeunes préfèrent boire de l'alcool l'après-midi ou en soirée. Donc ça ne se voit pas dans les établissements scolaires. Alors que le cannabis, c'est vraiment différent. Et on voit des jeunes qui fument le matin. Et puis au niveau des odeurs, ça se voit plus. Du coup, on a des jeunes qui sont défoncés en cours, qui ont du mal à suivre, qui peuvent avoir les yeux rouges, qui peuvent avoir des fous rires, etc. Donc ça, c'est plus visible. Donc on m'envoie plus de jeunes qui fument du cannabis.
Et quel est le profil des consommateurs Le principal profil, c'est est-ce qu'ils sont seuls, avec des parents séparés?
C'est des jeunes qui vont pas bien. Après, moi, sur tous les jeunes que je vois, je dirais qu'il y a un peu deux profils. J'ai soit un jeune, une jeune en face de moi qui est dans ses premières consommations, qui l'a dit à l'infirmière ou qui l'a dit au CPE, un surveillant. Enfin, voilà, ça s'est su pour l'équipe éducative du lycée ou du collège. Et donc je vois ce jeune, on est dans les premières consommations, mais on n'est pas encore dans des consommations à risque, puisque c'est des consommations dites d'usage simple, c'est-à-dire le week-end, pour faire la fête, pour être avec les copains, je teste un peu mes limites, je vais toucher ce qui est un petit peu illégal, mais c'est pas forcément des jeunes que je vais revoir sur le long terme, parce que c'est des jeunes qui, des fois, vont bien, en fait, parce qu'on est dans des sociétés qui sont addictogènes, et il n'existe pas de société sans drogue, et donc qu'il y ait des jeunes qui testent des choses comme l'alcool, comme la cigarette, est finalement un phénomène assez naturel, et qui ne va pas être forcément problématique. Et après, j'ai principalement, du coup, le deuxième profil de jeunes, des jeunes qui ne vont pas bien. Des jeunes qui sont dans un mal-être, et là pour le coup, la drogue ou l'action des jeux vidéo, des écrans, etc., va vraiment servir de béquille à un certain mal-être et qui va les aider finalement à supporter ce qui va pas dans leur situation, que ce soit familial, que ce soit avec les amis, que ce soit à l'école. Ça peut être puis des fois tout en même temps. Et du coup, ça va pouvoir les aider finalement à se faire un peu du bien. Alors, deux poids, deux mesures, ça va les aider à aller un petit peu mieux, mais après, il y a aussi tous les problèmes que la conso va créer aussi. Là, quand on parlait des jeux vidéo, effectivement, si ça va pas bien à la maison, que les papas et mamans sont en train de divorcer, que du coup ça se dispute beaucoup, le jeune va avoir tendance à se mettre devant son écran pour s'isoler et puis pour oublier un peu ce qui se passe à la maison. Mais pour le coup, si c'est pour se coucher à 5h du matin, se réveiller à 7h, arriver en cours et dormir toute la journée, du coup ça va se voir. Et du coup, c'est un jeune qui va être plus fatigué, qui va avoir du mal à suivre les cours, etc. Donc il y a des côtés positifs, des fois, à la conso. Et puis il y a aussi tous les côtés négatifs qu'il va falloir aller chercher avec le jeune pour comprendre où il en est dans son parcours de consommation.
Quel traitement recommanderez-vous pour lutter contre une dépendance ?
Alors, quand vous parlez de traitement, est-ce que vous pouvez expliquer ?
Les types de suivi que vous apportez aux jeunes et comment vous les aidez justement à dépasser ce stade de dépendance qui les ronge, on va dire ?
Les solutions ?
Les solutions. Parce que traitement, du coup, on entend traitement médicamenteux, oui, mais du coup, vrai. Non, c'est plutôt au niveau de l'accompagnement, comment ça se fait ? Ça dépend beaucoup des jeunes avec qui je travaille. Et puis ça dépend des jeunes eux-mêmes, ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas obliger un jeune à arrêter une consommation s'il n'en est pas là et s'il n'en a pas envie. Donc déjà, le tout, c'est de réussir à faire le point sur sa consommation. Qu'est-ce qu'il en retire de positif ? Qu'est-ce qu'il en retire de négatif ? Où est-ce qu'il est au niveau de la balance décisionnelle ? Est-ce qu'effectivement, il est dans sa période de lune de miel avec sa consommation ? Il est dans une espèce de passion et du coup, il n'y a plus que ça qui existe. Et tout est merveilleux dans le cannabis. Et en plus, madame, vous avez vu le rap, on parle que de ça. Et c'est génial. Ou est-ce qu'il commence à me dire effectivement, je vois bien que là j'ai des troubles de la mémoire, j'ai des troubles de concentration quand je suis en cours, que je me rends compte que si je fume pas mon pétard le soir, j'ai du mal à m'endormir. On va vraiment essayer de voir où est-ce que le jeune il en est dans sa consommation. Et puis ça va être 5-10 minutes de l'entretien. Et puis après, pendant une demi-heure, 35 minutes, on va parler du reste. On va parler de qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe avec les copains, qu'est-ce qui se passe à l'école. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es senti obligé de commencer à fumer le soir pour pouvoir t'endormir ? Parce que si tu n'arrivais pas à t'endormir, ça veut dire qu'il y avait des choses peut-être auxquelles tu réfléchissais, et que c'était difficile en tout cas de faire le tour et de pouvoir s'apaiser pour dormir. Donc c'est plutôt ça ensuite qu'on va aller travailler avec le jeune. Et ça, c'est différent pour chaque jeune. Donc j'ai pas tellement de ligne de conduite selon les entretiens. Après, ce que je vais essayer d'aller creuser à un moment donné, c'est les émotions. C'est de que vraiment le jeune arrive à poser des émotions dans l'entretien, arrive à les verbaliser, arrive à les nommer, pour qu'ensuite on puisse les retravailler. Si c'est très compliqué avec le papa, imaginons, moi ça m'arrive là en entretien d'amener des cartes d'émotions, avec donc plein d'émotions, c'est des cartes avec des smileys. Et le but, ça va être de mettre les cartes sur la table et d'effectivement d'aller demander aux jeunes, quand tu penses à ton papa, quand tu te disputes avec ton papa, c'est quoi les émotions que tu ressens à ce moment-là ? Et que le jeune va aller choisir, est-ce que c'est de l'indifférence ? Est-ce que c'est du dégoût ? Est-ce qu'il se sent blessé ? Est-ce qu'il se sent vexé ? Et d'essayer à un moment donné de mettre un petit peu de l'ordre dans toutes ces émotions-là pour l'aider peut-être un peu plus à le dépasser et puis peut-être le comprendre aussi. Donc il y a tout ce travail des émotions qui peut être assez intéressant à faire. Ensuite, j'ai une collègue qui s'appelle Carole Corsini, qui travaille dans l'établissement et qui travaille toujours dans d'autres établissements du bassin romanais, qui travaille principalement dans l'éducation nationale. Et on fait souvent des doubles suivis, c'est-à-dire que moi je suis le jeune et Carole va suivre la famille. Elle va suivre la maman, le papa, la grande sœur qui est autour de ce jeune. Et on va pouvoir à un moment donné, si tout le monde est d'accord, le jeune compris, la famille compris, réunir tout ce petit monde pour faire un entretien familial et poser un problème, une problématique pendant l'entretien. On dit souvent qu'en addicto, on ne peut pas prendre le jeune tout seul. le jeune, il fait partie d'un système, plusieurs systèmes. Le lycée, c'est un système. La France, c'est un système. La famille, ça en est un très important. Et qu'en addicto, on peut dire que le jeune, c'est un peu le symptôme du problème. Le symptôme, en fait, du problème de la famille entière. Donc, c'est très difficile d'aller régler un mal-être d'un jeune en le voyant lui tout seul, sans aller appeler la famille, sans, à un moment donné, réussir à communiquer sereinement tous ensemble. Donc, le travail avec la famille, il est quand même très important.
Et est-ce que les jeunes, ils viennent vous voir facilement pour essayer de s'en sortir ou alors ils mettent un peu de temps ?
Alors, ça n'est encore jamais arrivé qu'un jeune prenne mon numéro de téléphone à l'infirmerie et m'appelle en me disant « Oui, Suzy, j'ai un gros problème avec la drogue, il faut que je vienne te voir. »
Non, mais est-ce qu'ils veulent facilement s'en sortir quand ils viennent vous voir ou alors ils ont peur de se confier pour...
Ah, je ne sais pas si... Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes de consommation. Ils n'en ont pas toujours un tous, hein, des problèmes de consommation. Par contre, effectivement, des problèmes liés à la famille, à l'école, aux amis, ça c'est quand même très récurrent. Moi, je suis toujours très étonnée qu'au premier entretien, j'en ai fait un encore tout à l'heure, le jeune en face de moi me déballe sa vie à cœur ouvert, alors que je ne les connais pas du tout, quoi. Alors certes, je suis éducatrice spécialisée, donc moi j'arrive dans l'établissement, je suis en dehors de l'établissement, je ne fais pas partie de l'éducation nationale, mon sac à dos il est là, toutes les notes que je prends, j'explique hein, pendant le premier entretien que toutes les notes que je prends, elles restent dans mon sac, et après je m'en vais et je n'ai pas à partager ces informations. D'ailleurs les entretiens ils sont confidentiels. Confidentiels, ça veut dire que les parents n'ont pas à être mis au courant, les professeurs non plus, le CPE non plus, enfin... Moi, j'ai mes convocations, là, je fais des convocations, il y a marqué rendez-vous à l'infirmerie, donc le jeune, il peut montrer ça au professeur, le professeur ne sait pas forcément qui va me rencontrer. Et après, voilà, on leur dit aussi confidentiel, ça ne veut pas dire on dit rien non plus à personne, c'est-à-dire que si on pose une bombe en plein milieu d'un entretien, une mise en danger, par exemple, réelle et actuelle, viol, inceste, grande maltraitance, etc., le jeune sait qu'à un moment donné, cette information, elle devra sans doute sortir du bureau. Mais on se met d'accord avec le jeune, en tout cas pendant le premier entretien, de qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui reste pour nous, secret, confidentiel pendant cet entretien, et qu'est-ce qui peut-être pourra sortir. Donc je ne sais pas s'ils viennent facilement. En tout cas, ça me demande à moi un grand travail de partenariat avec vos CPE, avec vos surveillants, avec vos documentalistes, avec les infirmières, pour qu'on n'oublie pas déjà, et puis du coup pour qu'on m'oriente les jeunes. Parce que du coup, si les jeunes ne viennent pas, ça veut dire qu'il faut que tout l'ensemble du lycée et du corps des professeurs, etc., s'investissent en tout cas dans cette mission pour à un moment donné repérer les jeunes et pouvoir me les orienter derrière. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand je vois des professeurs et qu'on commence à parler un petit peu de drogue ensemble, on se rend compte que c'est quand même des sujets qui sont encore très tabous aujourd'hui. Et quand on demande aux professeurs, mais du coup, vous avez déjà vu s'il y avait des élèves qui, par exemple, avaient fumé le matin, etc., la plupart des profs disent « Ah oui, on en a remarqué un, ah bah celui-là, toujours derrière, les yeux rouges en train de dormir sur la table. » Et quand on dit « Mais est-ce que vous lui avez dit quelque chose ?» La plupart répondent « Ah non, je ne saurais pas comment lui dire. » C'est là aussi le gros problème, c'est qu'à un moment donné, si dans cette société, on ne prend pas part aussi à ce qui se passe autour de soi, c'est très difficile du coup de changer la donne. Moi, je travaille dans un XAPA, qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, du coup, on accueille des adultes chez nous. Et ces adultes, de ce qu'ils peuvent dire, en tout cas, dans les premiers entretiens, c'est que, par exemple, si je parle des alcooliques, des addicts à l'alcool qui vraiment sont obligés de boire le matin pour être juste normaux et donc, du coup, vont travailler sous emprise de l'alcool, c'est que tout le monde le sait. Enfin, ça se sent, en plus, l'alcool assez vite. Et puis, ça fait du bruit dans les sacs à dos. Enfin, ça se sent, ça se voit. Mais que, en fait, la plupart des gens ne disent rien. C'est terrible pour des gens qui sortent de 10 ans de maladie et qui disent « Mais vous vous rendez compte, la famille le savait, le travail le savait, et en fait, tout le monde a fait l'autruche, personne ne m'a dit, personne ne m'a montré en fait, qu'ils s'inquiétaient. » Et c'est une des choses qu'on peut travailler justement avec les professeurs, de dire bah, « Si vous voyez un jeune qui est défoncé, montrez-lui que vous savez, montrez-lui que vous l'avez remarqué. » Alors si c'est juste un jeune qui l'a fait pour faire ça avec les copains, parce que c'est sa première fois, parce que c'est un test, et ben peut-être que déjà lui, il aura un peu les chocottes de se faire cramer par les surveillants ou par la CPE, et du coup, il recommencera peut-être pas de fumer avant les cours, ce qui n'est pas une super idée. Et puis pour celui qui va pas bien, c'est aussi dire bah, « je vois que t'es pas bien, je vois que tu as pris quelque chose, je l'ai remarqué, qu'est-ce qu'on en fait ?»
Avec votre accompagnement, en moyenne, au bout de combien de temps les jeunes ils arrivent à s'en sortir ?
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par « ils arrivent à s'en sortir » ?
Bah, qu'ils arrivent à lutter contre la dépendance ou...
Je pense qu'on lutte toute sa vie un peu contre la dépendance. Et donc, je ne pense pas qu'on peut s'arrêter à « hop, y a un jeune, il fait 4 entretiens avec Suzy, et puis après, il a plus de problème de dépendance pour le reste de sa vie. » Et puis, comme je vous dis, moi, des fois, je vois des jeunes qui ne veulent pas arrêter. Et mon but, ça ne va pas être non plus qu'ils arrivent à zéro ou qu'ils se mettent vraiment en difficulté, parce qu'il y a... Il y a des jeunes qui ont vraiment des situations, par exemple familiales, qui sont très compliquées et qui, sans le cannabis, pourraient être tentés de faire des choses bien pires, du genre tentative de suicide, etc. Enfin, des fois, la drogue permet aussi de contrer un certain mal-être et des fois, ça peut être important. Alors, c'est de le réduire, de faire de la réduction des risques, c'est-à-dire de lui demander combien il en fume, d'essayer peut-être de réduire, qu'il ne fume pas n'importe quoi... de mettre des bons filtres et pas des cartons pour protéger un petit peu ses poumons, etc. C'est comme mettre un peu sa ceinture de sécurité, ça empêche pas l'accident, mais on va dire que ça empêche d'avoir un trop grave accident. Mais il n'y a pas forcément de fin vraiment nommée, en tout cas, des fois, sur les consommations. Et je pense que d'ailleurs, on peut pas réduire mon travail à juste un travail de consommation au niveau des jeunes, puisque du coup, comme je vous disais, c'est quand même beaucoup plus complet que ça. Puisqu'il y a un vrai travail éducatif derrière autour de la situation familiale, des relations avec les pères, la relation avec l'éducation nationale. Et que, en fait, c'est ça qui est important pour le jeune. Parce que le jeune qui vient et qui n'est pas bien, il peut toujours me dire combien de pétards il fume par jour, ça ne va pas régler le fond du problème. C'est-à-dire, oui, il y a papa et maman à la maison qui sont en train de divorcer, et ça ne me met pas bien, et moi je suis au milieu du conflit, et je ne sais pas ce que je fais de tout ça. Et en fait, c'est ça qu'on va aller venir chercher.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Alors, ça dépend. Je travaille du coup beaucoup avec les partenaires, avec le lycée, avec tous les agents qu'il y a dans le lycée. Ça m'arrive de faire des sensibilisations du coup dans les lycées, mais aussi avec des partenaires extérieurs. Par exemple, là, au Dauphiné, j'interviens avec Nicolas Bazin, qui fait partie de l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion à la santé, qui est payée du coup pour le département pour aller accompagner les équipes éducatives. Et après... Moi, je travaille sur cette antenne de Romans et du coup, à Romans, effectivement, je vais pouvoir travailler avec Carole Corsini pour accompagner les jeunes. J'ai aussi un psy avec qui, des fois, je peux travailler. Il y a une infirmière aussi qui fait beaucoup de réduction des risques, qui peut venir lors de soirées étudiantes, par exemple. Et pareil, à Montélimar, j'ai d'autres personnes vraiment de mon association avec qui je peux travailler. En fait, selon où je vais, moi, sur le département, je vais avoir des collègues différents. Et donc, c'est ça qui est plutôt chouette, parce que du coup, je rencontre plein de monde et je travaille avec beaucoup de personnes différentes. Et en addicto, on a tous aussi un peu des manières de travailler différentes, parce que je pense que l'addicto, c'est très large et en même temps très personnel. Et du coup, ça permet d'à chaque fois réapprendre et de travailler vraiment différemment selon les gens avec qui je travaille.
Actuellement, vous suivez combien de jeunes ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Je dirais une dizaine en ce moment.
Et par an ?
Alors je sais pas, parce que moi ça fait depuis septembre que je suis sur cette mission. Depuis septembre, une dizaine. Parce que du coup les jeunes que je vois, en général je les rencontre. C'est arrivé deux fois que je vois un jeune une seule fois et qu'après j'ai pas besoin de le revoir. Mais sinon la plupart que je vois, ils ont été orientés à bon escient et du coup je vais les voir 3, 4 fois, 10 fois. Moi il y a un jeune que je vois là depuis septembre, je le vois une fois toutes les deux semaines, depuis septembre. Et en décembre, j'ai commencé à lui dire peut-être que ce serait bien qu'on reprenne pas de rendez-vous et que panique à bord total. Et donc, on a repris rendez-vous pour janvier.
Du coup, vous nous avez dit que vous pratiquez ce métier depuis septembre.
Alors, le travail d'éducatrice spécialisée, je le fais depuis... J'ai eu mon diplôme pendant le premier confinement, donc 2020. Du coup, depuis 3 ans. Et moi, j'ai surtout travaillé en centre d'hébergement, en réinsertion sociale ou centre d'hébergement d'urgence. Donc, il n'y a pas grand rapport avec l'addiction. De toute façon, l'addiction, ça traverse tous les champs de l'éducation spécialisée. Et du coup, là, je suis à Tempo depuis un an pile, parce que je suis arrivée mi-janvier l'année dernière. Et j'ai un 50% sur une mission avec la protection judiciaire de la jeunesse, où je fais effectivement des sensibilisations auprès des professionnels. Et après, je fais des activités collectives. Et la mission du coup que je fais là dans votre lycée, je l'ai depuis septembre. Et du coup, je fais des sensibilisations et des entretiens individuels. Et un peu de prévention aussi.
Et le fait d'aider ces jeunes, est-ce que cela vous plaît ?
Ah oui, je trouve que c'est un métier qui est très intéressant. Oui. En plus, très souvent, quand on est éducateur, éducatrice spécialisée, on travaille avec des personnes qui sont obligées de nous voir. Il y a des injonctions. Par exemple, là, si on parle de la PJJ, bah, du coup, c'est des jeunes qui passent devant le juge et qui sont obligés de voir des éducateurs. Quand on a des grands problèmes avec sa famille et que du coup, on est suivi par l'aide sociale à l'enfance, et bien, effectivement, on a des éducateurs qui viennent dans notre famille et qui viennent nous parler, qui sont envoyés par le juge, des fois même par la police. Moi, j'ai fait un long stage d'un an dans un foyer pour enfants. Ça s'appelle une MEX aujourd'hui, maison d'enfants à caractère social. Bah, c'est des enfants du coup qui sont obligés d'être là. Enfin, il y a toujours une injonction finalement à la rencontre dans ce métier-là, qui du coup des fois peut être très dur parce que du coup on a des gens qui veulent pas être là, des enfants qui veulent pas être placés. Et la relation, elle a forcément un impact à cause de ça. Là, c'est la première fois que je découvre finalement un champ d'éducation spécialisée où les jeunes qui veulent nous voir. Bon, des fois, la première fois, ils n'ont pas très très envie, ils sont vraiment très encouragés par les professeurs. Mais il n'y a que le premier entretien qui est un petit peu fortement encouragé. Après, le jeune, il n'est pas obligé de revenir. Et donc, les jeunes qui reviennent, ils veulent être là. Et rien que pour ça, bah, du coup, c'est très satisfaisant, parce que du coup, c'est des jeunes qui prennent en main finalement leur vie, qui deviennent responsables et conscients en tout cas de leur vie, de ce qu'ils peuvent changer. Et de ce qu'ils peuvent faire évoluer, et ça c'est très agréable à faire au quotidien. Oui. Voilà.
Bah, c'est la fin des questions du coup. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir reçus et répondu à nos questions.
Et merci à vous, c'était un plaisir.